Dans les contes de fées, les princesses trouvent l'amour, emménagent dans un château et vivent heureuses pour toujours, sans jamais regarder leur compte en banque. Dans la vraie vie, aimer, c'est composer avec des choix concrets. S'installer à deux, faire évoluer sa carrière, désirer au nom des enfants. Et tôt ou tard, l'argent entre dans l'histoire. Avec Femmes d'Action, le podcast dédié à l'indépendance financière des femmes, Fortunéo ouvre la discussion autour d'un sujet encore tabou. L'argent dans le couple. Parce qu'au fond, quand on aime, on compte quand même.
Cet épisode de L'Heure du Monde est soutenu par Audi Business. Aujourd'hui, les critères environnementaux prennent une place croissante dans les décisions de flotte des entreprises. L'Audi Q6 e-tron répond à cet enjeu. Première et unique de son segment à obtenir le label EcoScore avec 70% d'abattement sur l'avantage en nature et 120 euros d'économie mensuelle. Tous les détails sur audi.fr. Audi Business est le programme sur mesure dédié aux professionnels. Au 18 juin 2026, l'Audi Q6 e-tron Performance est le premier SUV du segment B à obtenir le label EcoScore. Au quotidien, prenez les transports en commun.
La guerre d'Espagne se termine donc en 1939. Mon arrière-grand-mère, Patrocinio, est désormais veuve. Et personne ne lui propose de récupérer le corps de son mari mort au combat. Mais pourquoi elle-même n'a pas tenté des démarches ? J'ai demandé à mon père s'il avait eu des échos de cette période sombre qui marque le début de la dictature.
Ma grand-mère s'est retrouvée veuve, puis en plus veuve de rouge, ce qui n'était pas très facile. C'était mal vu à l'époque, d'autant plus que Grenade était une ville qui est tombée immédiatement aux mains des franquistes. Donc, tout ce qui était réactionnaire s'exprimait facilement, quoi.
Oui. Veuve de rouge, c'est-à-dire de républicain défait, dans un pays où les vainqueurs font leurs lois. Je comprends qu'elle ne doit pas être considérée comme assez légitime pour réclamer un corps. D'autant que ce n'est sans doute pas sa priorité, car la situation économique est très compliquée. Mon arrière-grand-mère habite avec ses quatre enfants dans un petit village près de Grenade. Un petit village où, sans mari, elle ne peut pas nourrir sa famille.
À la fin de la guerre, Patrocinio, ma grand-mère, décide de s'installer à Grenade, de quitter le village, parce que j'imagine qu'il n'y avait pas de moyens de survie dans le village. Et je sais que, pendant de nombreuses années, ma grand-mère faisait de la contrebande de produits entre la Calahorra et les villages des alentours et Grenade, où elle transportait de la marchandise. Et par ailleurs, je sais que dès que les il y avait quatre enfants, hein, trois filles et un garçon, les filles ont travaillé assez vite et les garçons aussi. Je sais que ma mère et sa propre mère, donc ma grand-mère, cousaient pas mal de choses à la maison. C'était le travail à l'ancienne. Elles allaient chercher le tissu ou les chemises pré-découpées chez un marchand. Elle rentrait à la maison avec tout ça, et puis elle cousait des manches, des choses comme ça.
Ça, j'ai le souvenir que Naomi, elle me raconte
ça. Voilà, donc elle a fait ça pas mal.
Et on est d'accord qu'elle a pas fait d'études.
Elle a pas fait beaucoup d'école, non. Elle a dû arrêter l'école très très vite. Oui, bien sûr.
Ma grand-mère arrête l'école primaire pour aider à subvenir aux besoins de la famille. L'Espagne traverse alors une grave crise économique, et beaucoup souffrent de la faim. Mais ça, ma grand-mère ne m'en a jamais parlé. En fait, la seule histoire qu'on m'a véritablement transmise, c'est celle de mon autre arrière-grand-père. C'est un peu la légende dorée de la famille. Car lui aussi s'est battu dans l'armée républicaine, mais lui, il en est revenu vivant.
Alors lui, c'est compliqué. Donc lui, il a dû quitter Grenade immédiatement en 1936, parce que lui, il était repéré, il était donc militant anarchiste, et il était un petit peu repéré quand même. Donc il n'a pas vu sa famille pendant toute la durée de la guerre. Donc, ce qui se raconte dans la famille, c'est que il a trouvé une bonne amie ailleurs, qu'à la fin de la guerre, donc contrairement à d'autres camarades de combat qui avaient décidé de quitter l'Espagne parce qu'ils voulaient pas rester là, lui, il a voulu rester en Espagne. Donc, il se sépare, je sais pas comment, de sa bonne amie qui en a conçu beaucoup de dépit, et elle l'a dénoncé aux autorités franquistes après la fin de la guerre.
Il est dénoncé et recherché par la police franquiste, à qui il échappe d'une manière un peu inattendue.
Et il s'en est sorti parce qu'effectivement, lui, il avait été blessé. au bras. Il avait gardé des séquelles, d'ailleurs, je vous ai déjà raconté, il y avait dans une partie, il avait gardé des parties métalliques sous la peau. Quand on était enfant, il nous montrait, on tatouillait sous la peau les parties métalliques. D'ailleurs, il a gardé l'un de ses doigts qui était raide. Et en fait, les médecins voulaient lui couper le bras. Et lui, il a refusé. Et en fait, la dame a pensé qu'on lui avait coupé le bras et qu'il était manchot, quoi. Donc elle a dénoncé un manchot. Et évidemment, il s'en est sorti un petit peu avec cette confusion. Voilà, voilà, on cherche un manchot, bah voyez, il est pas manchot.
Ça, c'est l'histoire qu'on raconte chez moi au repas de Noël, entre Demande tes cadeaux, ces gâteaux andalous très gras et très sucrés. Parce que c'est une histoire de survie un peu héroïque, avec une fin heureuse. Bref, la belle histoire, celle qui permet peut-être de ne pas parler des autres, de ne pas se confronter aux émotions qui me serrent la gorge. Mais vous vous en doutez, beaucoup n'ont pas eu la même chance face aux franquistes. Et leurs histoires sont importantes à raconter. Car Franco a un objectif clair en s'installant à la tête de l'Espagne. Purger, nettoyer le pays des rouges, sans aucun état d'âme. Une citation du dictateur à cet égard est restée célèbre. « Pour sauver l'Espagne, je ferai fusiller la moitié de la population. »
« La personne sacrée de l'Espagne est en danger. »«
Vamos contra el fascismo !»«
Los hombres más heroicos del mundo !»
Le mot de passe arrive à l'Espagne.
J'ai enquêté sur la mort de mon arrière-grand-père républicain espagnol et la mémoire des victimes de la dictature franquiste. Je m'appelle Garance Munoz et vous écoutez Espagne, l'écho du silence, une série historique et intime réalisée par Amandine Robillard. Épisode 4, le dernier dictateur d'Europe. En 1939, auréolé de sa victoire, Franco prend la tête de l'État espagnol et met en place une dictature. Avec un plan précis, initié dès le début de la guerre dans les territoires franquistes, comme me l'explique l'historien François Godichaud.
Le camp franquiste, les dirigeants franquistes ont un véritable projet politique. Projet politique et social d'une nouvelle Espagne. Cette nouvelle Espagne, qui se dit traditionnelle, éternelle, c'est-à-dire en dehors du temps, c'est pas un retour vers le passé, c'est une véritable nouvelle Espagne. Et pour cela, cela exige d'écraser, d'éliminer, d'éradiquer complètement l'Espagne qu'ils considèrent, eux, comme l'anti-Espagne. Considérer que la guerre se termine en avril 1939, c'est oublier que cette guerre n'était pas seulement militaire, elle était aussi sociale, politique, même avec un versant religieux.
Après avril 1939 et la fin officielle des combats, une guerre larvée se poursuit pour assurer cette nouvelle Espagne. J'ai demandé à Sophie Babi, historienne spécialiste du franquisme, de me décrire à quoi ressemble le régime de Franco.
Alors, Franco instaure une dictature, ultra-catholique, nationaliste, pour redonner toute sa place à l'Église, dans la société, dans l'éducation, dans la vie intime, la vie familiale, etc. Un régime aussi très militarisé, où l'armée et les militaires ont un poids extrêmement important, et un régime qui est très oppressif de toutes les formes de liberté. Il n'y a aucune liberté, ni d'expression, ni d'opinion, ni de pluralisme politique. On est dans un régime vraiment monolithique, qui est donc dirigé et surtout centralisé et tourné autour de la figure de Franco.
Sous Franco, l'Espagne fait un bond en arrière. En 1941, le mariage civil est aboli, le divorce supprimé, l'avortement et les moyens contraceptifs sont interdits. Et pour toutes celles et ceux qui sont considérés comme un frein, un obstacle à cette nouvelle société, la répression est violente.
La répression, elle est multiforme, donc elle se traduit déjà par des arrestations de masse et puis par des procès qui sont des conseils de guerre, souvent qui sont des conseils de guerre express, hein, sumarissimos on dit, très très rapides, et qui se traduisent par diverses condamnations, soit à la prison, soit à mort. Et donc les prisons se remplissent de façon vraiment exponentielle à partir de 1939 et ça jusqu'au milieu des années 40.
Franco va même plus loin, en s'appuyant sur l'idée qu'il existerait un gène rouge, que les idées de gauche se transmettraient en famille, il met en place une politique de rééducation, de redressement des mœurs et des corps. Les orphelins, les jeunes filles et garçons considérés comme déviants sont placés dans des institutions de redressement.
Une crèche modèle est inaugurée près de Madrid par le général Franco. Après la guerre civile qui ensanglanta la terre espagnole, l'œuvre de reconstruction qui devait être accomplie dans bien des domaines était considérable. Pensant tout d'abord à protéger l'enfance, le gouvernement du Caudillo créa l'assistance sociale qui fonda plus de 4000 de ces institutions par lesquelles passèrent en cette année des milliers d'enfants.
Ce que vous ne voyez pas sur ces images de propagande diffusées par le gouvernement de Vichy en novembre 1943, ce sont ces petits-enfants, de 5 ou 6 ans en tenue d'écolier, qui reçoivent le général Franco en levant le bras droit dans un salut fasciste. On voit aussi des nourrissons enveloppés dans des langes. Tous ces bambins ont sans doute des parents républicains.
Des femmes étaient emprisonnées, parfois enceintes, et ensuite fusillées, par exemple exécutées, ou des femmes étaient emprisonnées avec des petits-enfants et ensuite condamnées à la prison. Et donc ces enfants pouvaient être retirés ensuite à ces femmes et placés soit dans des orphelinats, dans des instituts, soit donnés à d'autres familles, sans que leurs traces soient très clairement retrouvables aujourd'hui. Donc il y a eu un phénomène assez massif à ce moment-là, de retrait des enfants, des femmes, donc de ces femmes, de ce type de femmes-là, pour qu'elles soient ensuite rééduquées dans certaines institutions du régime phalangiste ou bien donc données à d'autres familles.
Je ne sais pas du tout à quel point ma famille a souffert de la répression. Mon père m'a dit que ma grand-mère avait essuyé quelques insultes, fille de rouge, ce genre de choses. Mais à ma connaissance, personne n'a été emprisonné. Le plus difficile, c'était la situation économique. Compliqué pour tous les Espagnols, mais terrible pour les Républicains.
C'est une période extrêmement difficile, de façon générale pour l'ensemble de la population, mais plus pour cette partie-là de la population qui est totalement persécutée, donc qui perd pour la plupart du temps tous ses biens, ses maisons, ses terres, le peu d'argent qu'il restait, qui ont dû beaucoup de mal à trouver un emploi. D'accord, ils sont donc réduits pour la plupart à la misère.
Une misère telle qu'une véritable famine sévit dans le pays.
À partir de la fin de la guerre, jusque bien avancées les années 40, on estime aujourd'hui qu'il y a près de 200 000 personnes qui sont victimes, ou qui meurent de la famine dans l'après-guerre. Alors, la propagande franquiste du régime a longtemps dit que cette famine était due à la Seconde Guerre mondiale et était due à l'isolement dans lequel l'Espagne se trouvait du fait de la guerre. Aujourd'hui, toutes les recherches pointent très clairement la responsabilité du régime qui a choisi de mener une politique économique d'autarcie, c'est-à-dire une politique d'autosuffisance alimentaire et industrielle, donc mettant fin aux importations, par exemple, d'engrais qui sont nécessaires, et puis menant une politique en fait de réquisition et de distribution nationalisée, en quelque sorte, centralisée, on va dire, qui a conduit donc à la famine et au développement du marché noir aussi, bien sûr. Et donc, ce sont vraiment les années d'une grande misère qui sont bien décrites par certains romanciers, etc., que ces années de fin des années 30 et tout début des années 40.
À Madrid, il y aurait toujours des gens pour croire que la guerre s'était terminée en 1939. Mais dans mon village, c'était différent. Dans mon village, les hommes s'enfuyaient dans la montagne pour sauver leur peau et les autorités poursuivaient les femmes qui tentaient de gagner leur vie en vendant des œufs et même celles qui vendaient des asperges sauvages le long des chemins. Car pour celle-ci, tout était interdit, tout était illégal, tout devenait un délit, et la survie de leurs enfants relevait du miracle. Voilà comment cela se passait dans mon village, où l'on pouvait se faire tirer dans le dos n'importe quand pour avoir donné à manger à son enfant, à son père, à son frère.
Après la fin de la guerre, le nombre de morts côté républicain continue donc d'augmenter. On estime qu'il y a eu environ 50 000 personnes victimes de la répression franquiste. En fait, hors des combats militaires, on compte 150 000 républicains tués par les mains des franquistes, contre 49 000 dans le camp adverse. En tout, la guerre d'Espagne aura fait 500 000 morts. À ce moment-là, en Europe, la Seconde Guerre mondiale fait rage. Franco est évidemment allié avec ceux qui l'ont aidé durant la guerre civile, Hitler et Mussolini. Mais il n'a pas les moyens d'entrer véritablement dans la guerre à leur côté.
La victoire de Franco est due à l'intervention de l'Allemagne et de l'Italie. Donc Franco, naturellement, s'inscrit, bien entendu, du côté de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il reste officiellement neutre, jusqu'à ce qu'en octobre 1940, il rencontre Hitler à Hendaye, à la frontière donc franco-espagnole. Et cette rencontre est déterminante. Franco s'engage à ce moment-là à rentrer en guerre, affirme sa velléité d'entrer du côté de l'Axe dans la guerre, et puis au moment opportun. Donc c'est Hitler qui retarde un peu le moment, qui dit « bon là, c'est pas encore le moment ». L'Espagne n'est pas très utile non plus, parce que son armée est exsangue. Le pays est dans la misère. Donc il y a des échanges un peu de bons procédés à ce moment-là. Mais Franco n'entre pas en guerre et finalement ce moment opportun n'arrivera jamais.
Donc l'Espagne ne sera jamais vraiment une belligérante lors de la Seconde Guerre mondiale. À une exception près.
En revanche, Franco a envoyé des troupes donc, en Russie, sur le front nord et est, qui est la division à Soule, cette division bleue. Et effectivement, c'est un élément clé de sa propagande plus tard que de dire qu'il a maintenu l'Espagne à l'abri de la Seconde Guerre mondiale, que s'il est resté neutre dans la Seconde Guerre mondiale, donc le conflit qui opposait les fascismes aux démocraties, lui s'est engagé tout de suite dans la guerre contre le communisme.
Et ça, c'est une propagande qui fonctionnera, mais pas tout de suite. D'abord, au sortir de la guerre, les Alliés ne voient pas vraiment d'un bon œil cette dictature à leur porte.
Juste après la guerre en 1945, ce qui m'a beaucoup frappée en lisant les archives des Nations Unies, c'est que pour les Alliés, cela ne fait aucun doute que l'Espagne franquiste était alliée indirecte, complice, évidente, et avait fourni de l'aide concrète au régime de Hitler et de Mussolini, et plus que ça, que par nature, sa nature était de même type. C'est vraiment une épine lancinante pour l'Europe et le monde libre que cette Espagne franquiste qui reste là, au sud de l'Europe.
Ici, Londres, Jean Guinbert vous parle.
Ce matin, les oreilles de Franco ont dû tinter à lui rompre les tympans. Pendant près de 2 heures d'horloge, l'Assemblée des Nations Unies s'est occupée de lui et les orateurs qui se sont succédés à la tribune ne se sont pas privés de dire ce qu'ils pensaient du personnage et de son régime. Il y avait dans l'assistance quelques notoires républicains d'Espagne et ils ont dû, en écoutant ses discours, sentir soudainement s'alléger le poids de leur exil.
Les républicains espagnols, les vaincus, donc qui sont en particulier ceux qui étaient en exil, n'avaient qu'un espoir, qu'une espérance, c'était que la libération de l'Europe franchisse les Pyrénées et aille jusqu'au sud de la péninsule et renverse le régime de Franco.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Mussolini et Hitler meurent. Le fascisme est défait. Le général de Gaulle annonce la victoire le 8 mai 1945.
La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. Mais l'Allemagne est abattue et elle a signé son désastre.
Et les républicains espèrent que le franquisme connaîtra le même sort. Pourtant, le régime va durer 36 ans. Franco réussit un tour de force, une double victoire, à la fois dans son pays et sur le plan international. Alors comment expliquer une telle longévité? Comment Franco échappe au sort de l'Italie et de l'Allemagne et à l'opprobre international?
De fait, il n'y a jamais eu aucune velléité de la part des puissances alliées de libérer l'Espagne. Aucun intérêt stratégique, aucune véritable volonté en fait, politique non plus, ni de la part de la France, de Gaulle, très faible quand même à la sortie de la guerre, ni de la part des États-Unis pour qui l'Espagne est un problème mineur finalement et qui tient, et ni pour la Grande-Bretagne, qui au contraire tiennent à avoir une Espagne stable à leur porte et qui craignent plus que tout la révolution communiste et la possibilité d'avoir en fait une Espagne rouge. Et donc, ils préfèrent finalement un régime relativement stable à la condition qu'il ne soit pas une menace pour le monde libre.
Car le monde entre dans la guerre froide. Et le 14 décembre 1955, l'Espagne est admise aux Nations Unies, pour la plus grande satisfaction du ministre des Affaires étrangères espagnol, Alberto Martín Artajo.
L'adhésion de l'Espagne et des 18 autres pays qui rejoignent aujourd'hui les Nations Unies est d'autre part un acte de justice.
À partir des années 50, l'Espagne s'ouvre progressivement. Le pays se fait une place à la lumière de l'ordre international. Et Franco s'adapte parfaitement à cette nouvelle ère.
On distingue habituellement, notamment à la suite des travaux de Paloma Aguilar, deux types de légitimité qui se succèdent, mais aussi qui cohabitent. C'est-à-dire que la première légitimité du régime, on l'a vu, c'est une légitimité guerrière, fondée sur la victoire, sur la croisade, sur l'annihilation, la persécution de l'anti-Espagne, de ces rouges, libéraux, francs-maçons, etc. Cette légitimité guerrière et de croisade ne disparaît jamais, en fait. Elle reste vigente, elle reste valide, invalable jusqu'à la fin du régime, jusqu'en 1975, mais elle s'adoucit un petit peu, elle s'atténue avec des velléités d'un discours de timide, de réconciliation qui est mené surtout du côté de l'Église à la toute fin des années 50, début des années 60, mais jamais vraiment adopté par le régime. Et puis à partir du début des années 60 et surtout lors de l'année 1964, il y a le ministre de la propagande, de la culture en fait, de l'information, formation du tourisme, qui est un ministre de la propagande, qui célèbre les 25 ans de paix.
Il y a 25 ans, le 27 mars 1939, à midi, les troupes du général Franco entraient à Madrid. Aujourd'hui, le régime franquiste célèbre 25 années de paix, ou encore, comme le disait récemment l'abbé de Montserrat, 25 années de victoire.
Et donc, il base la légitimité du régime désormais sur la célébration de la paix, donc avoir maintenu l'Espagne en paix depuis 1939, donc à l'abri de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre froide, tout ça jusqu'à maintenant, et de prospérité. Paix et prospérité, c'est-à-dire vantant les réussites économiques du régime, le développement économique, et puis la modernisation sociale, donc l'arrivée de l'électricité, de l'eau courante, progressivement ensuite des machines à laver, de la télévision, etc., dans les foyers espagnols.
Il faut s'y résoudre. L'Espagne de 1964 n'est plus tout à fait celle de 1939. Elle n'est plus divisée en républicains et franquistes, mais en partisans du Real de Madrid, de la princesse Irène ou du flamenco. Bref, c'est la paix.
La force de Franco, c'est d'avoir réussi à s'adapter à la modernisation au cours du XXe siècle. Peu à peu, il remodèle sa propagande sur la paix et la prospérité économique. Un récit national toujours efficace aujourd'hui auprès des partisans d'un néo-franquisme.
Cette seconde légitimité, c'est la légitimité d'exercice, hein, qui s'oppose à la légitimité d'origine, mais qui, j'insiste, cohabite les deux dans les années 60-1970. Mais cette légitimité d'exercice, elle est fondamentale alors de comprendre aujourd'hui les tentatives de blanchiment du régime de Franco, puisque c'est celle-là qui se maintient et qui justifie qu'on puisse encore célébrer le franquisme.
À ce moment-là, mes grands-parents vivent toujours à Grenade. Ma grand-mère ne travaille pas, mais mon grand-père, qui vient d'un milieu un peu plus aisé, a réussi à faire des études de médecine. Pour autant, la vie est difficile. Il n'a pas beaucoup de patients car peu d'Espagnols ont les moyens de se faire soigner correctement. Avec la naissance de mon père, en 1960, la famille décide donc de partir vivre en France. J'ai demandé à mon père ce qu'il se rappelait de cette époque-là. Celle des années 60 et de l'émigration. Bon, évidemment, il était trop petit pour avoir de vrais souvenirs, mais il y a tout ce que ses parents lui ont raconté, et notamment son père, qui, visiblement, n'avait vraiment plus envie de vivre dans une dictature.
Bon, la dictature lui pesait, et il avait envie de voir autre chose. Voilà. Il m'a toujours dit, il y a un truc qui l'a marqué depuis qu'il était lycéen, c'est que, évidemment, imagine le lycée dans les années 50 en Espagne. Ouais, l'Espagne, c'était la première puissance mondiale où tout y était mieux, la foi avait vaincu l'hérésie marxiste et des choses comme ça. Et je sais que mon père me disait, mais c'est pas possible qu'on soit les meilleurs, quoi. Vu comme on vit, c'est, voilà. Puis, il voyait des films américains, tu vois, ou des comédies américaines où les gens vivaient dans des conditions qui étaient inimaginables en Espagne. Mmh. Et ça, donc, il savait que c'était du mensonge. Et ça lui pesait et il voulait vivre ailleurs.
Mon grand-père déménage donc à Paris, avec toute la petite famille et l'ambition de pouvoir exercer en tant que médecin. Mais ce n'est pas si simple.
Alors, il n'a pas trouvé tout de suite un boulot de médecin, évidemment. Donc, il a travaillé chez Kléber, à la chaîne. Hein. Kléber, il fabriquait des pneus de voiture. Il y a travaillé quelques mois. Là, il a été en contact avec... Il y avait le dispensaire Cervantes. Le dispensaire Cervantes qui avait été fondé après 1945 par des républicains en exil, des médecins, et qui était dans le 11e rue Gerbier. Donc là, il a trouvé du travail comme médecin dans ce dispensaire, où il a travaillé depuis je ne sais quel mois de 1960 jusqu'au début des années 80.
Mes grands-parents, mon père et ses deux sœurs s'installent donc définitivement à Paris. Mais ils retournent régulièrement en Espagne, en vacances, voir leur famille et leurs amis rester au pays.
Et quand t'allais en... Mais non, mais c'est un peu débile comme question, mais est-ce que quand t'allais en Espagne, tu sentais que c'était encore la dictature ou vous n'en parliez pas trop? C'était un peu un non-sujet?
Si, on sentait, parce qu'il y a des choses... Puis moi, j'étais enfant, même les enfants ressentent les choses de manière un peu particulière. Je savais toutes les pérégrinations qu'il y avait eu. Pour moi, la guerre d'Espagne, c'était quasiment l'histoire de la famille, en fait.
Oui.
Je savais que les frontières, c'était compliqué, parce que mon père ne devait pas être parfaitement tranquille. Ça, j'ai dû le sentir. Et je sais que pendant longtemps, même après ado ou même jeune adulte, quand je passais une frontière, j'étais pas tranquille.
Ouais.
Aujourd'hui, ça m'est passé, je m'en fous. Mais les premiers voyages que j'ai fait tout seul, passer une frontière, non, j'étais pas serein. Ouais.
La dictature dure, dure. Franco est toujours là. Mais à plus de 80 ans, sa santé décline. À l'été 1974, des rumeurs circulent sur sa mort imminente. Et mon père est justement en vacances en Espagne à ce moment-là.
Ça, je me souviens très bien parce qu'il y a eu de la tension dans la ville. Les militaires ont été rappelés dans leur caserne. Le jeune frère de mon père, qui était flic, il était commissaire à Ceuta. Je l'ai vu blanchir. Et il était en vacances en même temps que nous chez les grands-parents. Il a dû repartir rapidement pour Ceuta. J'ai vu qu'il avait la trouille. Hein.
Mais la trouille de quoi ?
La trouille que, Franco meurt. Est-ce que une nouvelle guerre civile va s'enclencher ? Qu'est-ce qui va se passer ? Comment va réagir la population ?
Ah, il y avait cette crainte.
Bien sûr.
Finalement, Franco tient encore le coup une année supplémentaire, jusqu'au 20 novembre 1975. À 10h, le président du gouvernement, Carlos Arias Navarro, prend la parole à la télévision. Il est en sanglots et il annonce la mort de Franco.
Españoles.
Espagnol. Franco est mort.
Franco a muerto. El hombre de excepción.
Cet homme d'exception,
ante Dios,
qui devant Dieu et devant l'histoire, a assumé l'immense responsabilité du service le plus exigeant et le plus sacrificiel envers l'Espagne, a donné sa vie.
Servicio a España. A entregado su vida quemada,
consumé jour après jour,
día a día,
heure après heure,
hora a hora,
dans l'accomplissement d'une mission transcendantale.
De una misión trascendental.
Le 20 novembre 1975, Franco meurt dans son lit. C'est quelque chose qui est très controversé de dire ça en Espagne. Certains vont se dire que quand on dit ça, on minimise totalement l'importance de la lutte antifranquiste, du combat antifranquiste et de la force des forces antifranquistes. Mais de fait, ces forces antifranquistes n'ont pas réussi à mettre fin au régime, n'ont pas réussi à renverser le dictateur qui est effectivement mort dans son lit.
Quarante ans après la guerre d'Espagne, Franco, le dernier dictateur d'Europe occidentale, meurt. À 82 ans, dans son lit, c'est-à-dire toujours au pouvoir, sans être inquiété, sans être jugé. Dans ma famille, la joie de la chute du dictateur se mêle à l'appréhension de ce qui les attend ensuite. Mais en fait, rien ne se passe, hormis un immense hommage national.
Pour lui rendre hommage, ou lui dire un dernier adieu, ces Espagnols de tous âges et de toutes conditions ont attendu une bonne partie de la nuit dans le froid d'un hiver commençant. Pendant 47 heures, ils auront défilé dans la grande salle des colonnes du Palais d'Orient au rythme de 80 à 100 personnes à la minute pour voir, pour saluer le corps de l'homme qu'ils continuent à considérer comme l'élu de la Providence et qui sera enterré demain au Valle de los Caídos.
Franco est inhumé avec tous les honneurs lors d'une cérémonie somptueuse. tandis que des centaines de milliers de républicains sont oubliés dans des fosses communes à travers le pays, comme celui de mon arrière-grand-père, le dictateur est enterré dans un tombeau majestueux, un monument qui proclame sa victoire éternelle et sa gloire. Prochain épisode, la mémoire retrouvée.
Je détiens la force toute puissance !
Les maîtres de l'univers débarquent sur Prime Video.
Skeletor a enlevé ma famille et il a détruit notre monde.
Un été tout en muscles.
Je me battrai pour elle.
Découvrez la montée en puissance de Musclor.
Je vais te montrer ce qu'un homme fait de sa toute puissance.
Je pense qu'on a assez discuté.
Les maîtres de l'univers. Un film en exclusivité, regardez maintenant, seulement sur Prime Video.
Dépasser les limites pour réaliser l'impossible. Voici ce à quoi les ingénieurs Audi travaillent chaque jour. L'Audi Q6 e-tron 100% électrique est le premier SUV de sa catégorie labellisé EcoScore. Une prouesse technique qui offre aux professionnels de nombreux avantages fiscaux et toujours plus de valeur pour leur entreprise. Détails sur Audi.fr. Pensez à covoiturer.
Charlie et les kangourous.
Tadam !
Découvrez une amitié extraordinaire entre une petite fille...
Je m'appelle Charlie.
...et des kangourous.
Il a faim, ce petit kangourou.
On va s'occuper de toi, mon grand.
Cet été, faites un bond au cinéma...
On vient vous aider.
...pour vivre la plus grande aventure familiale des vacances.
Quand ils seront prêts, on les ramènera ici. C'est là qu'ils sont chez eux.
Inspiré d'une incroyable histoire vraie, Charlie et les kangourous.
Les kangourous, pour nous, c'est magique.
Actuellement au cinéma...